Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver après l'émission de rentrée assez dense, assez chargée hein, de la semaine dernière. Eh bien, on va continuer sur donc, notre lancée olympique et paralympique. Hein, c'est le lundi d'automne aujourd'hui, c'est le premier lundi d'automne, mais c'est pas grave, nous on va rester encore un petit peu dans ce bel été que l'on a vécu, été 2024, avec notre invité. On l'avait déjà reçu à ce micro, c'est un fidèle, il reviendra pour la rétro. C'est un historien du sport, c'est Pierre Lagru. Bonsoir Pierre, comment ça va?
Bonsoir, bah, écoutez, ça va très bien avec... Après cet été olympique, paralympique qui a été très riche, là, c'est un petit peu en train de retomber.
Voilà, ouais.
On se retrouve à la réalité, mais on a vécu une période très spéciale.
On va tous s'en rappeler. Hein.
Ouais, très spéciale.
Ouais, c'est ce que tout le monde dit.
C'était, en plus, si on prend l'origine, enfin, juste avant les Jeux, on était quand même dans une... Il y a la crise sociale depuis des années. Il y avait l'extrême droite qui a gagné les élections.
Enfin, le premier tour.
Non, qui a gagné aux européennes.
Ah oui, oui, oui.
Européennes. Oui. Après, il y a eu la dissolution. Il n'y a plus de gouvernement.
Il y en a depuis ce matin.
Oui, ouais, mais il y avait de quoi que tout pète. Et, en plus, et d'un seul coup, d'un seul coup, tout s'est arrêté. Et moi, j'étais partout.
Ouais.
Et je veux bien le dire, sans aucune accréditation.
Ouais, c'est bien.
Exprès pour faire une expérience de spectateur lambda. Spectateur lambda sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Mm-hmm. Les Jeux Olympiques, pour moi, c'était un rêve d'enfant.
Ouais.
Les premiers que j'ai vus, j'avais 11 ans, c'était les Jeux de Mexico. L'image de Tommy Smith et John Carreau, ça m'a marqué à vie.
Ah, c'est sûr.
Ça m'a structuré. Mm-hmm. Et donc, voilà, avec l'approche de ces Jeux Olympiques, je me suis fait le piéton, j'ai sorti un petit carnet de voyage. J'ai bien apprécié.
Eh ben, on va reparler de tout ça. Alors, je vais saluer celle qui a beaucoup travaillé aussi pendant ces Jeux. C'est pour ça qu'elle n'était pas là la semaine dernière. Elle a eu quelques jours de repos. C'est Vanessa. Bonsoir, Vanessa.
Bonsoir à tous.
Ça va, pleine forme?
Très, très bien.
Toi aussi?
Oui.
Là, tu retombes dans le quotidien?
Mais ouais, mais bon, on garde quand même le goût des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Ouais, hein. Ça reste ravi, ça.
Clair, et je les ai vécus et c'était magnifique.
Voilà, on va saluer aussi notre ami Alexandre qui lui était déjà avec nous la semaine dernière. Bah, il est parti en Amérique pendant les Jeux, histoire d'aller anticiper un petit peu sur ce qui va se passer à Los Angeles.
Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
Ça va bien?
Ça va super, en plus j'ai déjeuné avec un volontaire des Jeux Olympiques qui était à Roland-Garros, lui.
Ah bah c'est bien, j'en connais un autre.
Il m'a raconté un peu son expérience et qu'il a pu voir des personnalités. Très content de
Et tu connais donc Sarah qu'on salue, elle était avec nous
bien
la semaine dernière. Hein.
Salut Sarah.
Voilà, elle était aussi volontaire. Elle nous a raconté donc son vécu et son quotidien au cours donc de ce mois olympique et paralympique. Pierre, j'ai envie de dire, est-ce que Paris, ça n'a pas été les plus beaux Jeux olympiques et paralympiques?
C'est difficile de dire.
C'est mieux que Londres, c'est mieux que Barcelone?
C'est difficile de comparer les époques. On peut comparer avec Londres.
Oui.
C'est à touche-touche, à mon avis.
Oui, mais tout mélangé entre l'enthousiasme, les médailles, tout.
Tout, mais Londres, c'était des très beaux jeux. Parce que les Anglais, ils ont une capacité d'autodérision. Ils ont complètement changé leur... Il y a du violet partout, des couleurs.
Surtout qu'ils avaient piqué les jeux. Grâce à Stéphane Diaco,
d'abord. Grâce à Stéphane Diaco. Mais c'était Londres, c'est fait une espèce de microcosme, de micro-temps des Jeux Olympiques. Tout était envieux, c'était très festif. Les Londoniens étaient partis. Paris, c'est un petit peu pareil. Ce que je dirais en plus pour Paris, c'est que le patrimoine a été mieux mis en valeur que Londres. Mm-hmm. Londres, ils ont essayé. Mais ils ont réussi. Mais Paris, ça a été vraiment mieux pensé. On y en a tout vu. Ouais, ouais. La Tour Eiffel,
des belles photos, hein, cette image du cycliste là, qui passe, le cycliste qui passe le long de Montmartre, ou le vainqueur avec la Tour Eiffel derrière.
C'est génial.
Ah, ouais, ouais.
C'est génial.
Les peintres et les photographes, ils ont dû se régaler. Quoi.
Ouais. C'est génial, il y a énormément d'images. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, il y a un petit plus par rapport à Londres. Ouais. Si on remonte plus loin dans le temps, Barcelone. Oui. C'était génial, Barcelone, mais parce que il y avait un contexte historique spécial, c'est que c'était les premiers Jeux de l'après-guerre froide.
Ah oui,
c'était les premiers Jeux de l'après-guerre froide, c'était les premiers Jeux ouverts complètement aux professionnels.
Ah oui.
C'était les Jeux d'un nouveau monde qui ont été très réussis, mais après, maintenant, il y a beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de sous. Et Paris, non, c'est très réussi. Mmh. Après, on peut critiquer le budget. Moi, je ne critique pas parce qu'il n'est pas si... c'est 9 milliards. Bon, 9 milliards, c'est 9 milliards. Mais ce n'est pas dans la fourchette haute des budgets. Mmh. Londres, c'était entre 12 et 13 milliards. Après, il y a les jeux des dictatures. Là, on n'en parle même pas. Pékin, c'est 38 milliards. Sochi, c'est 40 milliards. Tokyo, c'est pas une dictature. Mais enfin, ils ont eu le Covid. C'était une catastrophe.
Ouais.
Donc, le budget semble avoir été tenu. Le projet a été tenu. Ce temps de liberté, de sport, je dirais presque, c'est-à-dire de fraternité, qui est totalement...
C'est exactement ça.
Qui était totalement absent de la société française depuis des années, qui là, d'un seul coup, on était tous... il y avait vraiment un sentiment de fraternité. Mmh. Il n'y avait pas de chauvinisme. On encourageait beaucoup les Français. C'est ce que j'appelle du patriotisme sportif, mais sans animosité.
Ça nous a rappelé un petit peu 98 hein, et 2018, un degré moindre.
Ah non, 98, c'était très chauvin.
Oui, mais enfin, on était contents. C'était pays, tout le monde était mélangé.
Oui,
quoi,
on était contents.
Voilà.
Tout le monde était mélangé, mais là,
c'était la fête, quoi.
Oui, mais après, il y a eu le retour de bâton.
Oui.
Et on a mis...
Il y aura peut-être aussi, on sait pas.
Peut-être, non, c'est différent, parce que 98... le pays a construit une histoire à partir de la compétition. Mmh. Parce qu'avant, si la France n'avait pas gagné, 1996, on aurait complètement oublié.
Oui, bien sûr.
Et là, avec cette victoire...
Et puis, il faut se rappeler de quelle façon, parce qu'il y avait vraiment un scepticisme qui était quand même, vis-à-vis d'Aimé Jacquet et puis l'équipe de France, qui était énorme.
Oui, mais qui était justifié.
Ils n'étaient pas bons. Et ils ont gagné.
Ils ont gagné, mais la finale contre le Brésil, c'était super, mais si on prend les autres matchs d'avant, c'était pas grand-chose.
C'est ce qui rend la victoire plus belle, d'ailleurs.
C'est ce qui rend la victoire plus belle, mais donc après, on a construit une histoire a posteriori sur ce fameux concept de France Black Blamber.
Ouais.
Et bon, en 2002...
Bon, ça a duré 3-4 ans, puis après...
En 2002, Le Pen est au deuxième tour de la présidentielle. Mmh. Alors que là, on ne va rien construire après. Enfin, on va peut-être construire des choses, mais je veux dire que ce qui était prévu a été réalisé. Ça n'a pas été embelli, ça n'a pas été survendu.
Non, c'est sûr.
Et on a vécu des moments... Vraiment, la fraternité, c'est un petit peu le mot qui me vient le premier à l'esprit. Parce que, bon, en tant que spectateur, j'ai côtoyé tout le monde, quoi. Les spectateurs lambda, les Hollandais, très sympas.
T'as embrassé les gendarmes, non?
J'ai pas embrassé les gendarmes. Mais c'était. Alors, ça.
Ça se faisait, hein,
ça faisait partie de mes craintes. Dans le cadre de l'hypersécurité. Ah bon, il y avait le truc de l'urgence Villejonce, là, tant ça, là. Ça me sort par la tête, mais. J'avais un petit peu peur de l'hypersécurité. Ce qui s'était passé à Londres, justement, ça n'a pas été ça à Londres, c'était une grosse réussite de Londres. Ils avaient vécu un moment de grande tension comme la France, et tout le monde s'est plié aux mesures de sécurité parce qu'elles étaient aimables.
Oui, oui.
Et à Paris, ça a été pareil.
Il y avait des photos qui étaient faites avec les forces de l'ordre, tout ça, il n'y avait aucun problème. Des sourires, que de la joie, pas d'agressivité.
Quand j'étais au stade de France, c'était là où il y a le plus de contrôle. Mmh. Mais déjà, les transports, tout le monde avait dit que ça allait être l'horreur, c'était super bien organisé.
C'est ce qu'on disait la semaine dernière. Ah oui, on n'a jamais vu des transports qui marchaient aussi bien.
Les gens de la
pas de
RATP,
retard, rien.
Magnifique.
Ouais, clairement plus.
Les gens de la RATP qui voyaient arriver des dizaines de milliers de personnes en même temps.
Et plein de sourires dans le métro.
Oui.
Non mais vraiment, partout dans la rue, je vous rejoins totalement et je me permets de rebondir sur ce que vous dites parce que un peu partout, que ce soit dans la ville, dans le métro, aux abords des sites de célébration, non seulement il y avait une très bonne organisation et les gens étaient très satisfaits parce que j'ai été les interviewer, j'ai été les voir. Et en plus, il y avait vraiment cet esprit de cohésion. Et pareil, avant les Jeux, il y avait toutes ces tensions, que ce soit internationales, nationales. Et passé la cérémonie d'ouverture, j'ai envie de dire, dès que les épreuves ont commencé, tout le monde était uni derrière. Les sportifs, on applaudissait tout le monde. Et ça, ça m'a marqué parce qu'il y avait vraiment eu un contraste. Malgré toute la situation géopolitique qu'il y avait, moi, j'ai vu que tout le monde applaudissait tout le monde. Et ça, c'était une vraie satisfaction. Et puis le patrimoine, comme vous avez dit, une vraie réussite, hein, que ce soit à Paris ou aussi ailleurs. Mais après, Paris, ça a été très symbolique, avec notamment la finale de Cécile Foot et le Grand Palais, et tous ces sites qui ont été magnifiquement embellis, oui. Et toute la ville. Donc je vous rejoins totalement.
C'était absolument superbe. Et c'était attendu, mais que ce soit aussi réussi, oui. C'était une très belle surprise. Pour revenir sur la sécurité, c'était simplement chaque contrôle, disons que les forces de l'ordre partaient du principe qu'on était innocent,
oui, oui.
Et pour voir si on n'est pas coupable. Alors souvent, c'est le contraire. On part du principe que normalement on va causer des troubles. On vérifie si finalement non. Alors ça, c'était pas du tout ça. Simplement, il regardait dans mon sac, il me palpait très, très...
Alors justement, on a parlé de la sécurité, il y avait une grande, grande appréhension, c'est cette fameuse cérémonie d'ouverture des Jeux, où on a été avant-gardiste. Bon, pour moi, il y a eu 6 cérémonies, puisqu'il y a eu aussi le défilé donc, de tous les sportifs olympiques et paralympiques, hein, qui a clos donc, ce bel été olympique et paralympique. Il y a eu aussi l'arrivée de la flamme donc, sur Marseille, tout ça, c'était aussi des cérémonies. Mais c'est vrai que la cérémonie d'ouverture, elle était grandiose, il y avait des craintes, justement.
Oui.
On a été avant-gardiste et souvent on dit que les cérémonies d'ouverture, elles donnent le ton des Jeux.
Alors là, moi je vais dire que là, de ce côté-là, je suis un mauvais français.
Oui.
Parce que depuis 4 ans, je dis, cérémonie d'ouverture sur la scène, c'est impossible.
C'est pour ça que je pose la question.
Bon, alors après, le format a été réduit. Hein.
Bien sûr.
On a enlevé le nombre de spectateurs.
Oui, oui, oui.
Mais ça s'est quand même fait sur la scène.
Et sous la pluie.
Et sous la pluie. Alors,
sous la pluie, et j'y étais, et je vous raconterai un peu.
Moi, j'y étais, mais je suis parti.
Moi, je suis resté sous la pluie jusqu'au bout.
J'y étais.
À la télé, c'était mieux. Voilà.
Sous la pluie.
Oui, à la télé, c'était vraiment beau.
Ouais. Et dans les places pas chères, là, on ne voit rien. Donc, sous la pluie, avec mes métiers, je suis rentré. Et c'était superbe.
Oui, c'est vrai que c'était avant-gardiste, hein, Vanessa.
Ah, c'était très avant-gardiste.
Comme quoi, en France, hein, on est capable de tout faire.
Et ça a été vraiment réussi. Moi, je suis très sensible à tout le côté artistique, c'est scénaristique, enfin, scénique. Et je n'étais pas déçue. Je trouve qu'on a été jusqu'au bout de l'intention, que même, je pense, on a ébloui. C'était vraiment très réussi. Même sous la pluie, et même, j'ai envie de dire que la pluie, ça a donné une dimension
encore plus forte,
importante, même à la limite, avec un peu cet esprit un peu, pas de chaos, mais ce côté incroyable. Ça a donné une dimension supérieure, je trouve, à cette cérémonie.
Alors, ouais. Alexandre, il va falloir que tes amis américains, ils fassent fort en 2028.
La prochaine étape, Los Angeles, mais ouais. Culturellement parlant, il n'y a pas de débat possible.
Qu'est-ce qu'ils vont nous faire, une fusée, un Apollo?
On ne sait pas, ils ont l'argent, mais on a la culture au moins.
Les Américains, on verra, mais ils ont des idées mais qui sont différentes.
Oui,
ils vont faire autre chose.
Quand oui, non, bien sûr.
La cérémonie de 1984 ou
1985. Oui, c'était les petits smurfers, je me rappelle, à Los Angeles, oui.
C'était très Hollywood. C'était très Hollywood, mais c'était américain, quoi.
Et puis 1996, c'était Coca-Cola.
C'était les jeux Coca-Cola. Oh,
bah
c'était
ouais.
le Coca-Cola a vaincu le Parthénon, disait Mélina Mercouri.
Ouais. Et Philippe, pour avoir rencontré la maire de Los Angeles, elle a vraiment été éblouie par Paris. Et d'ailleurs, elle rencontrera de nouveau la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et ils vont échanger pour comment s'inspirer justement aussi de ça. Mais c'est vrai, dans ce qu'on a vu sur les cérémonies de clôture, l'intention, ce serait, comme vous avez dit, donc Hollywood est vraiment américain. Et je pense que c'est très bien qu'ils jouent cette carte d'être, d'avoir quelque chose de typiquement américain, typiquement... Los Angeles, Hollywood, voilà.
Ça donne le ton du pays, voilà, et ça donne exactement. Même le ton des jeux.
Oui, oui.
Autant sur un mondial de foot, un mondial de rugby, les cérémonies d'ouverture, ça n'a aucune importance. Autant sur les jeux, on sait que c'est la culture des jeux. Hein, voilà.
C'est la culture des jeux, et puis il ne faut pas oublier qu'on sort des jeux de Tokyo, les jeux Covid.
Oui.
Les jeux Covid. Alors,
ils ont eu beaucoup de courage, hein, chapeau à eux.
Ils ont eu beaucoup de courage, mais ça renforce encore plus la réussite de Paris. Mmh. Parce que quand on regarde un petit peu, Tokyo, c'était il y a 3 ans, mais c'était... les épreuves étaient les mêmes, les exploits étaient les mêmes, mais c'était d'une tristesse impossible.
Ouais.
Et je me souviens de ce persiste américain, Sam Kendrick, qui faisait les tests Covid pour les athlètes. Lui, il est arrivé, il était contre le vaccin. Il n'était pas vacciné, il avait un petit test positif. Il a été obligé de rester pendant 15 jours dans sa chambre sans bouger. Pendant que le concours de Soi la Perse, dont il était l'un des favoris derrière Duplantis, se déroulait. Mais je pense que les Jeux de Tokyo, d'un côté, ça a été bien qu'il ait lieu quand même.
Il fallait.
Mais c'était d'une tristesse.
C'est sûr.
D'une tristesse absolue. Et Paris arrive derrière avec une fête totale. Ça renforce encore plus. Je pense qu'au niveau de la fête, la bonne fête que la fête saine, c'était superbe. Ah, c'était super, il y a eu énormément de choses.
Et ça a drainé les Paralympiques, comme à Londres.
Ça a drainé les Paralympiques. Et les Paralympiques se sont bien tenus dans la continuité des Olympiques.
Et c'était une seule et même famille. Mais ça, on l'a toujours vu hein, depuis 7 ans, depuis qu'on suivait donc, ces Jeux en amont. Paris 2024, c'était une seule et même famille, les Olympiques et les Paralympiques. Ce qui n'a pas toujours été le cas
Dans le passé. Depuis quelques temps, c'est obligatoire.
Oui.
Obligatoire, mais ça a été soutenu comme il fallait. Les Paralympiques n'ont pas été
Et puis le public, il s'est identifié aux athlètes paralympiques comme il s'identifiait aux athlètes valides. Hein. Dans le métro, on en a croisé qui étaient peinturlurés, qui venaient vibrer aussi bien pour Aurélie Aubert que pour Teddy Riner. Hein.
Ah oui, bien sûr.
Et j'ai même envie de rajouter quelque chose, Philippe. Est-ce que vous savez qu'on a vendu plus de places pour la paranatation que pour la natation?
Oui, je sais.
C'est vrai, il y avait plus de places, c'était plus accessible, mais tout de même, moi j'y étais à la paranatation et je peux vous dire que c'était incroyable l'ambiance.
Oui.
Le site, tout était réussi.
J'y étais aussi, je peux dire que c'était...
C'est fantastique.
C'est vraiment,
Et je pense qu'on est aussi une grosse réussite sur les Jeux paralympiques. Sur la diffusion, par exemple, France Télévisions, il y avait autant d'heures. Tout ça, ça a participé à ce succès des Paralympiques. Et je pense qu'il y a aussi une lumière, une prise de conscience. Maintenant, l'objectif, ce sera que ça se perpétue dans le temps. Voilà.
Alors, 12...
Le problème, c'est pour terminer, c'est qu'il y a un gouvernement qui va
On va en parler.
Il n'y a pas le ministère qui...
Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a une réduction.
Il est déjà supprimé.
Non, mais il y a en plus, c'est des réductions de budget qui vont arriver, probablement, on nous l'a dit. Je pense que le sport va être malheureusement le budget qui va être entaillé. Hein, donc,
un peu comme d'habitude.
Enfin là, apparemment, on va faire serrer encore plus les boulons pour les budgets vis-à-vis de l'Europe. Donc, voilà. Donc, en tout cas, pour les billets, il y a eu 12 132 647 billets qui ont été vendus. Alors effectivement, il y a eu 9 556 792 pour les JO et plus de 2 575 855 pour les paras. Voilà, on a dépassé Londres. Hein. Ça fait pratiquement 75% de remplissage.
Je pense même plus.
Il y a
pas mal d'endroits où c'était plein. Le Stade de France, c'était pas toujours très plein. Enfin, il y avait pas 80 000, mais il y avait bien 60 000.
Oui. Alors, un petit peu moins pour les sessions du matin, surtout pour les Paralympiques, fatalement. Hein. En plus, les gens avaient repris le boulot, étaient rentrés, mais le soir, c'était complet.
Allez-y.
Le soir, c'était complet. Alors, ce qui m'a un peu choqué, c'est que la tribune de presse, en revanche, il n'y avait personne.
Ah bon ?
Ah, le soir.
Bah, on y était, nous.
Enfin, il n'y avait pas grand monde le soir dans la tribune de presse.
Et alors, les endroits qui ont été le plus forts pour toi, Pierre ? Ce que bon, alors, malheureusement, tu n'as pas eu l'occasion d'aller à la piscine, non, mais tu es allé un petit peu partout, ailleurs.
Alors, j'ai bien aimé le tir à l'arc.
Oui, parce que, au champ de marche là-bas. Ouais,
au temps, au champ de marche avec
aux Invalides aussi. Aux Invalides,
oui, aux Invalides.
Le lieu était superbe. Mmh. On découvre le tir à l'arc. J'ai découvert, c'est assez amusant parce qu'il faut regarder la préparation pour bien regarder le tireur, mais quand la flèche part, pour regarder la télé. Parce que sinon, on ne voit rien.
Ah oui.
Et ben, c'est loin.
Et c'est passionnant parce que l'année dernière, j'étais au test event des Invalides et j'ai découvert vraiment ce sport. Je trouve ça captivant. Et puis, en plus, d'ailleurs, on a eu Lisa Barbelin qui a décroché sa première médaille de bronze. C'était son objectif. Et c'est la première archère à être médaillée olympique, première archère française. Et ce site, je confirme, il est magnifique. Non seulement j'y étais l'année dernière, mais je l'ai revisité aussi.
Ah, puis l'année dernière, mais encore mieux cette année.
Bah oui.
C'était vraiment en configuration.
Mais fantastique. Hein, ouais. Fantastique. Et puis aussi la médaille d'argent par équipe pour hommes. Mmh.
Et sinon, les autres sites qui ont plus marqué
beaucoup à la porte de Versailles. Alors, ouais. C'était moins spectaculaire, mais c'était d'une telle belle organisation.
Moi, comme la voiture, par exemple. Ouais.
C'était chouette. Le Stade de France était bien. Mais je connaissais le Stade de France, il était comme d'habitude.
Ouais. Le Grand Palais ?
Le Grand Palais.
Ouais, super.
Le Grand Palais, génial. Ça. Ouais. J'ai toujours la lutte gréco-romaine au Grand Palais. Il y a un côté magique, quoi. Magique.
Et donc, le champ de marche entre ces six foot et puis où il y avait le judo et puis le...
Ah ben, c'était superbe.
Oui, c'était superbe. Puis c'est facile, hein. On peut se déplacer, loin.
Voilà, c'est, après, qu'est-ce qu'on gardera de tout ça,
ça va démonter. On reviendra au champ de marche, on dira, tiens, on était là.
La piscine, je crois que Toulouse voudrait...
La piscine, ça y est. Il y a deux communes qui vont réparer, qui vont récupérer la piscine. Il y en a une deuxième. Et le sable, il est parti aussi du Bigeolet. Je crois qu'il est parti aussi dans une commune de Seine-Saint-Denis. Voilà. Donc, c'est comme ça. Hein. C'est pour ça que ça coûte pas cher, le jeu.
Oui.
On a su bien les pro.
C'est plutôt réussi, sur tous les plans.
T'es pas allé à Saint-Quentin, il y avait beaucoup d'ambiance aussi à Saint-Quentin. C'est une des plus grosses ambiances avec la piscine. Ouais.
Je suis allé à Saint-Quentin une fois pour les Paralympiques.
Ouais.
Et c'était super, quoi. Super, mais j'aurais bien aimé y aller pour les Olympiques, mais quand mon tour est arrivé, il n'y avait plus de place.
Ouais, ça ne m'étonne pas.
Ouais, beaucoup, moi, j'ai fait comme le...
Avec le BMX, le VTT, tout ça, voilà. Alors justement, on va revenir donc sur ces résultats avec Vanessa. On va d'abord rappeler... au niveau des Olympiques, l'objectif il est atteint comme pour les Paralympiques. On avait dit qu'on rentrerait dans le club 5, on est rentré dans le club 5, 16 médailles d'or, donc on bat le record des médailles qui était sur Pékin, déjà 43 médailles, et même les médailles d'or c'était sur Atlanta, on les bat. Hein. Donc 16 médailles d'or, 26 d'argent, 22 de bronze, on est la cinquième nation après les USA, la Chine, le Japon et l'Australie. Voilà, première nation.
Voilà, et pour vous faire un petit peu un détail des sports phares, évidemment la natation avec Léon Marchand qui à lui seul a remporté 4 médailles d'or. Et puis on a eu aussi une médaille d'argent et 2 médailles de bronze, notamment avec Florent Manodou. L'argent c'était Anastasia Kirchminikova,
Je t'interromps pour Manodou,
quel guerrier.
Il fait 8e temps en demi-finale. Mais il y a des gens qui sont des gens des finales. Et lui, il arrive à aller chercher une médaille de bronze en étant troisième. Ouais. Fabuleux.
Et donc la France, avec ses résultats en natation, elle se place troisième nation mondiale. Donc, vous l'avez souligné, Philippe. Et après, évidemment, le judo. Teddy Riner, qui est évidemment la légende, mais tous les autres aussi en tout. On avait 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent, 600 bronzes. Tous les athlètes ont brillé en judo. Et puis l'escrime vient après, le cyclisme, le canoë-kayak est également après, triathlon. Et les sports équestres, le tir à l'arc, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Alors c'est vrai que l'escrime, le judo, c'est toujours les sports traditionnellement rapportent le plus de médailles. Oui.
Et le judo, j'ai beaucoup aimé la compétition par équipe. Le judo, je n'ai pas pu y aller sur place.
Beaucoup d'émotions quand même.
Surtout le retournement de situation avec... avec Gaba.
Oui. Qui avait il a une chanson maintenant pour lui.
Hein. Normalement, il n'avait aucune chance et il gagne et puis derrière, tout s'enchaîne.
Et puis après, ça tombe sur Riner, donc
oui,
c'est impeccable.
C'est tout le truc qui s'enchaîne bien.
Et d'ailleurs, je vais quand même les citer tous, hein, la médaille d'or par équipe. Donc, Maxime Gael Ngaya, Ambou, Roman Dico, Teddy Riner, évidemment, Sarah Léoni, Sizik, Johan Benjamin Gaba et Clarisse Abguenenou. Et puis, sachez aussi qu'en médaille de bronze, on avait 6 médailles en judo sur les 22 remportées par l'ensemble de la délégation tricolore, tous sports confondus. Vraiment un très, très beau bilan sur le judo, l'escrime. Comme je vous disais tout à l'heure, moi, le moment sportif qui m'a marqué, c'est peut-être la médaille de Lisa Barbelin, parce que je l'avais vue l'année dernière aux Invalides et qu'elle avait cet objectif. Et que même si ce n'est pas forcément la tête qui a été la plus médiatisée, mais c'était beau d'atteindre cet objectif. Et moi, ça m'a marqué pour cette raison. Mmh. Voilà.
Et toi, Pierre?
Le moment sportif qui m'a marqué.
Après, c'est difficile de
non,
faire le choix.
Non, bien sûr.
Entre Marchand, Riner, tout ça.
Très dur.
Bah oui, c'est ça le problème.
Mais d'abord, je vais choisir un événement où j'étais sur place.
Oui, bien sûr.
Et c'est le rugby à 7.
Ah oui, ah oui.
Le rugby à 7.
Oui, c'est pareil.
L'opening de la. C'est ce qui a ouvert avec.
C'est pareil, voilà.
La médaille d'or, bien sûr.
Ouais. Ça a ouvert. Moi, j'étais.
On dit toujours que c'est important d'avoir des médailles les premiers jours, mais voilà, c'est ce qui donne le ton après.
J'étais plusieurs fois au rugby à 7. J'étais avant le début des Jeux, le 24, c'est le premier. La première journée de rugby à 7, c'était deux jours avant la cérémonie officielle.
Oui, oui.
Et là, j'ai compris que Paris, ça allait être gagné parce que le stade était plein. Mmh. Il y avait une ambiance superbe. Il y avait, les Français n'étaient pas très bons, voilà, mais il y avait des Fidjiens, des Samoans, et les Argentins étaient assez sifflés. Bon, c'est normal,
il y a un contentieux.
Il y a un contentieux, mais une très belle ambiance, un stade plein pour un sport... qui n'est pas sur le devant de la scène. Et puis, deux jours après, il y a Antoine Dupont et la victoire contre les...
C'est magnifique.
Quelle saison, hein. Champion de France, champion d'Europe et champion olympique. Ça compense le mondial de l'an dernier. La petite déception pour lui, du quart de finale perdu d'un point.
Un point et en étant blessé, en plus.
Oui, en plus, avec la mâchoire.
La mâchoire. Mais donc, l'instant Dupont, pour moi, c'est le début. Pour moi, c'est le début.
C'est ça.
Et après...
Après, il y a le reste qui suit, quoi.
Mm-hmm. Après, il y a le reste qui suit, mais c'est bien lancé avec une première médaille d'or, quand même assez inattendue, parce que les Fidji n'avaient jamais été battus au jeu.
Oui.
Et puis avec une...
Il n'y a pas eu photo, en plus.
Il n'y a pas eu photo, c'était totalement surprenant. Hein. Et une belle ambiance.
Sinon, Vanessa, donc les autres sports.
Alors, justement, le tennis de table, évidemment, avec les frères Lebrun, le surf aussi, on a été champion olympique. C'est pas tout.
Après, il y a des sports comme l'équitation, les canoës qui rapportent toujours des médailles.
J'ai parlé des sports équestres aussi tout à l'heure, ça a été aussi une réussite. Et le taekwondo, champion olympique, à Altea Lorrain. Et sachez que j'ai rencontré Pascal Gentil. Et il était très heureux que, justement, elle ait remporté cette médaille, parce que comme ça, au moins, il fait la passation. Vous pouvez d'ailleurs retrouver son interview sur le site de Mon Paris sur Mon Paris FM.
C'est un vieux fidèle de la radio, troisième ou quatrième fois.
Et c'était vraiment très intéressant de le rencontrer. Il était très heureux des résultats. Et aussi la boxe, on ne va pas les oublier. Et puis après, évidemment, j'avais prévu de vous parler des sports collectifs.
On va en parler. Mais alors justement, il y a des sports. Et il y a par contre, il y a quand même certains sports qui nous ont déçus. Hein. L'athlétisme, par exemple, c'est traditionnel.
On ne peut pas être déçu par l'athlétisme parce qu'on n'espérait rien.
Non, mais je veux dire, c'est des sports qui restent au même niveau depuis quelques années. C'est quand même le sport roi. Il n'y a pas de progression. Non. On est quand même un petit peu déçus quand même. Il n'y a pas de progression.
Il n'y a pas de progression, mais parce que l'athlétisme, c'est aussi le sport le plus universel. Beaucoup plus de concurrence.
Oui.
Et un gamin en France, il va plutôt s'orienter vers le foot que vers l'athlétisme. Pour les lancer, c'est les ados qui sont bien costauds, c'est le rugby qui les recrute. Alors que la course à pied dans le monde entier, en Afrique, les gamins ils vont courir à pied pour aller à l'école.
Et pieds nus parfois.
Oui, pieds nus. Et donc, il y a un moment où l'athlétisme, c'est quand même un sport difficile. C'est pas un sport ludique, l'athlétisme. Sport ludique, c'est très difficile. Donc, le gamin, il préfère aller jouer au foot, et puis il préfère Kylian Mbappé. C'est normal, hein, c'est normal. Mais l'athlétisme en France, ça fait des décennies que
Mais il n'y a plus de progression. Alors, il y a quand même d'autres sports où ça a été la déception. L'aviron, habituellement, on a des médailles. En aviron, le badminton, il n'y a pas de médaille. Bon, le golf, il ne fallait pas trop s'y attendre. Le cyclisme sur piste, une seule médaille. C'est quand même Benjamin Thomas qui... pour moi, cache un peu l'arbre. C'est l'arbre qui cache la forêt. L'escalade, pas de médaille. La gymnastique artistique et rythmique, on est passé complètement à côté.
Très dur.
L'haltérophilie, pas de médaille. Bon, la lutte, pas de médaille. La nage synchro, pas de médaille. Et puis d'autres sports, on est un petit peu loin, comme le plongeon, le skateboard, le tennis, le trampoline, le bijolet. C'est un petit peu dommage quand même. Il y a des sports, je pense, comme l'aviron, par exemple, qui traditionnellement, un petit peu comme le canoë, comme l'équitation, nous ramènent toujours une ou deux médailles.
L'aviron ramène toujours une ou deux médailles, mais c'est un peu par hasard quand même.
Oui,
c'est pas une politique sportive sur le long terme qui a débouché sur un objectif de médaille. L'aviron, c'est pareil, on a une médaille ou pas, ou deux médailles ou pas, mais c'est...
Mais le sport équestre, c'est pareil. Hein.
Le sport équestre, c'est pareil.
Voilà.
Et donc, le sport équestre, c'est quand même plus implanté en France.
Ils arrivent quand même à tirer des médailles, au moins, en change. Le tir, on ramène aussi toujours des médailles au tir.
Oui, mais bon, c'est. Après, il y a la quatrième place. On fait médaille ou on ne fait pas médaille.
Ça, c'est la plus mauvaise place. Et moi, si j'ai un grand regret, c'est notre ami Gymnase, quatrième quand même, sur tout ce qu'il a enduré, sur tout ce qu'il a fait. Ça aurait été bien, mais enfin c'est la loi du sport qui monte au moins sur le podium.
Oui, ça aurait été bien, mais bon, c'est aussi, je trouve que c'est aussi bien qu'il ne monte pas. Quoi.
Il a été au bout. Ça va l'obliger à repartir.
Non, il a été au bout de son aventure, de sa résilience. Il a été au bout de son aventure. Il est quatrième parce qu'il y en a trois qu'on fait mieux. Effectivement, ça aurait été bien pour lui, mais je pense pas que. Je ne pense pas qu'il en tire une déception totale. Enfin, je sais pas, mais je
m'avance. Il était déçu sur l'instant, puis après, j'allais dire le caractère reprend le dessus, et puis il dit je serai à Los Angeles, parce que la plupart vont continuer. Ça, c'est assez remarquable quand même. Hein, donc sur Los Angeles, et bon, lui, voilà, il est prêt déjà à repartir. Allez, tiens, on va rester dans la lignée des jeux. On va s'aimer avec Gilbert Montagnier, puis on revient. Hein. Allez, on se retrouve après.
À s'aimer, à toucher le ciel, se séparer, à brûler nos ailes, se retrouver comme les hirondelles. On va s'aimer tellement tu es belle. On va jeter les clés de la maison. On va rêver à d'autres saisons. On va quitter ces murs de prison. On va s'aimer.
On va s'aimer dans un avion sur le pont d'un...
Donc vous aviez l'émission en podcast la semaine dernière. Vous pouvez retrouver également celle-là aussi, donc très rapidement, d'ici quelques heures. Un petit mot sur les sports co, on en parlait. Alors, on a parlé du rugby à 7, hein, qui a été médaille d'or. Le foot qui s'est bien comporté, oui, médaille d'argent.
Oui, hein, mais
c'était pas évident, Thierry Henry. Et puis surtout le volley, quoi.
Oui. Alors,
qui
le fait doubler. Le foot, là, pour faire ma mauvaise tête, je trouve que le foot n'a pas sa place au Lyon.
Oui, non, mais. C'est sûr que ce n'est pas le sport numéro un.
Il y a le foot, le tennis, le golf.
On le sait. Ouais,
mais bon,
oui.
Ils sont bien débrouillés. Oui, c'est vrai que. Puis c'était l'Argentine, c'était l'Espagne en finale. C'était le volet.
Alors, ils ont tout gagné, les Espagnols, cette année au foot.
Mais le volet, c'était. Ils sont partis vraiment petits bras et puis sur la fin, ils gagnaient tout. Mm-hmm. La finale des hommes, j'étais. J'étais à l'haltérophilie, je me disais je vais avoir le temps d'aller voir à la télé. J'arrivais, c'était fini. Il a eu 3-7-0 aux Polonais en une heure, quoi. C'était vraiment le handball. Le handball, c'est une horreur.
Ah oui, alors justement, bon, l'équipe de France de hand féminine, elle répond présent. Deuxième, l'équipe de France est éliminée en quart de finale. Ça, c'est une des grosses déceptions. Ouais. On ne s'y attendait pas. Ils ont toujours répondu présent pratiquement dans tous les grands rendez-vous. Et là, surtout...
L'âge d'or est terminé.
Ouais, pour, une génération qui s'en va.
Une génération qui s'en va.
C'est pas que
ça. Oui, mais on dit ça à chaque fois, mais ils se renouvellent malgré tout. Ils ont gagné. C'est le sport le plus titré quand même. 6 titres de champion du monde, 4 titres de champion d'Europe, 3 titres olympiques. À chaque fois, quand même, ils arrivent à se renouveler dans les générations. Là, ils sont passés complètement à côté. Éliminés en quart de finale. Bah, c'est pas leur niveau,
Pierre. Non, mais
Pierre.
ils ne sont pas passés à côté. C'est-à-dire que ça se joue sur un ballon.
Bah oui, ça bascule pour
nous. Oui, habituellement, ça bascule pour nous. Ouais. Allez, tire à la dernière seconde, ça bascule toujours pour nous. Donc là, on est surpris. Mais c'est vrai que quand on regarde, il a 6 secondes à jouer, le mec, il a le ballon entre les mains. Et il se fait chipper par un Allemand. C'est le truc complètement improbable. Ouais.
Et je lui dis d'ailleurs une interview de l'arrière-droit, Rémy Ly, qu'on a eu pour La Flamme en interview à Créteil, qui a dit qu'il a été franchement mauvais sur ses JO.
Lui était mauvais, mais celui qui perd la balle, c'est Diamène qui a été plutôt bon. Mm-hmm. Le basket, c'était...
3 médailles d'argent pour le basket, c'est fabuleux.
J'avais envie de souligner c'était vraiment incroyable.
Les femmes d'un point, derrière les Américaines.
Contre les finales, contre les États-Unis, tout de même, chez les hommes et chez les femmes, c'est pas rien. La top nation de ce sport. Et puis aussi
et le basket 3-3.
Le basket 3-3.
C'est pareil. Ça se joue à pas grand-chose contre les Pays-Bas. Hein.
C'est ça joue à rien du tout, quoi. Un dernier ballon. Mais surtout que le basket 3-3 masculin n'était pas du tout attendu. Hein. Il était actif dès la présence. Donc les femmes, au contraire, visaient la médaille d'or, elles sont plantées. Et sur le basket masculin, le France-États-Unis en finale était assez attendu parce que c'est tout de la NBA. Quoi.
C'est du classique. Wembanyama,
Et même les Américains, ils ont salué la performance de Wembanyama à Wemby. Et c'était magnifique. Et juste un tout petit chiffre, une toute petite info, c'est un bilan quand même plutôt positif parce que la France a remporté toutes ses demi-finales en sport co, football, handball, rugby à 7, volleyball, basket 3x3. Donc ça quand même, déjà c'était très positif pour moi, le basketball, les deux, argent et basket 3x3. Et puis évidemment l'or en rugby à 7 et volley. Mais en plus, il y a cette info qui redore aussi des choses. Bien sûr, il y a eu quelques petites déceptions rugby
filles,
à 7, les femmes,
rugby,
alors qu'elles étaient vice-championnes olympiques.
Le water polo aussi, et puis le hockey sur gazon. Voilà.
Water polo et le hockey sur gazon, c'est pas des sports en France, personne n'y joue.
Non, mais enfin, ils avaient fait 4e des championnats du monde, water polo. Alors on s'est dit, peut-être que bon.
Non, après, on peut le dire peut-être surtout, mais sur le water polo.
Mais pour les jeux, on espère toujours.
Mais pour le water polo, ça ne peut pas être une déception. Le hockey sur gazon, ça ne peut pas être une déception. La France n'a pas le niveau. Mais...
Non, les deux déceptions, c'est le hand et puis allez, peut-être le rugby féminin aussi.
Le rugby féminin. Surtout le rugby féminin.
Après, les autres, le contrat, il est rempli. Le basket, ça passe pas très loin pour les femmes. Le foot, c'était inattendu. Hein. Thierry Henry, il a eu beaucoup de mal pour constituer l'équipe, chapeau à lui. Alors là, un gros coup de gueule. Mais bon, comme d'habitude, les femmes du foot, quart de finale, elles sont à leur niveau à chaque fois. C'est la même chose.
C'est un mystère, les femmes de foot, c'est terrible.
C'est terrible, je ne sais pas pourquoi.
À chaque fois,
la France féminine,
je pense que le problème,
terrible.
Il est beaucoup plus loin que le jeu lui-même.
Il y avait...
Elles sont surcotées, ces filles.
fois qu'elles sont surcotées.
Ouais, je suis d'accord.
Mais elles sont surcotées, mais c'est difficile à dire parce
mais
que
si, mais si,
le PSG féminin et l'OL féminin, c'est les meilleurs clubs de...
Le collectif, il est surcoté.
Oui, ouais, mais l'OL féminin, il y a beaucoup d'étrangers quand même.
Oui, oui, oui. C'est et c'est pas parce qu'elles sont bonnes individuellement, collectivement, elles sont surcotées.
Mais en tout cas, déception, vraiment.
À chaque fois, elles ratent la compétition, elles n'arrivent pas à passer ce stade des quarts de finale, il y a toujours quelque chose. Et malheureusement, bah oui, voilà quoi.
On se souvient de la Coupe du Monde 2019.
Oui,
en
pareil,
France aussi,
pareil, Coupe du Monde 2019, Coupe du Monde 2023. Enfin, bon, voilà quoi.
Coupe du Monde 2019, c'est quand même pas de poste pour les États-Unis en quart de finale.
C'est vrai, mais ça se joue à pas grand-chose. Ouais.
C'est ce qui nous permet aussi d'aller au bout, hein, ouais. Si on gagne. Ouais. Bon, un petit mot quand même sur ce classement des nations, qui, d'après toi, n'existe pas.
C'est mon coup de gueule, parce que le classement, le classement des nations n'existe pas. Là, il a été mis en avant par les médias. Il y avait
ça fait longtemps,
puis il y avait l'objectif de Macron. Mais le classement des nations, c'est une invention des médias et des politiques.
Ah, c'est ça, t'as les journalistes.
Ça n'existe pas, hein, n'existe pas, mais ça a été inventé, ce bilan, par les politiques au moment de la guerre froide.
D'accord.
Au moment de la guerre froide, où l'URSS et les États-Unis faisaient la guerre,
sur le terrain. Il n'y avait pas que la guerre d'espace, hein, il y avait aussi...
Ça, c'est clair.
L'espace, c'est les Jeux Olympiques.
La guerre du sport.
C'était les deux... C'était les deux grands terrains... d'affrontements pacifiques. Et donc, c'était inventé, mais pour entrer, pour aller un petit peu loin, plus loin dans l'histoire, une fois, il y a eu un classement des nations officielles, un championnat des nations officielles. C'était en 1908 à Londres, où le comte italien Brunetta d'Urso a créé un championnat des nations avec récompense. Et les Anglais... et voulaient le remporter, et ils ont mis tous les moyens, ils choisissaient les juges, et, enfin bref, c'était le fair play anglais, les Américains étaient pleins de morgue, ils voulaient écraser tout le monde, et ça a vraiment dégénéré au point que l'évêque Mgr Talbot, dans son prêche du dimanche, a vilipendé un peu toutes les gens, et terminé sur la phrase « L'important dans ces Olympiades n'est pas... »
D'où la fameuse phrase qui a été reprise.
Le credo olympique est né après le championnat des nations, et depuis, ça n'existe pas. Après, on fait des bilans.
Oui, bien sûr.
On fait des bilans, mais ça n'existe pas.
Alors justement, au niveau bilan, on va faire le bilan des Paralympiques. Et là, Vanessa, par contre, si ça a été brillant donc, au niveau des sports co, ça n'a pas du tout été chez les Paralympiques, parce que si on enlève ces six foot... les sports co, le basket, le rugby fauteuil en quart de finale.
Là, ça a été une déception. En effet, il n'y a que le cécifoot qui a pu briller là, dans les sports collectifs. Les médailles, elles sont venues donc, évidemment de la paranatation, du paracyclisme.
Surtout ces deux sports-là.
Voilà, ces deux sports-là. Et puis après, quand même, tout de même, le para-badminton, le para-tennis de table. Le paratriathlon et également paratir sportif et para-aviron, ainsi que para-taekwondo avec Jelika Diallo, que je cite. En tous les cas, voilà, c'était quand même un bilan extrêmement positif. On a atteint le top 8, 75 médailles, dont 19 d'or.
28 argent et 28
exactement,
bronze.
Exactement, c'est ça. Voilà. Et voilà.
8e nation au tableau des médailles, donc Vanessa l'a dit. Et on n'est pas les premiers Européens là, parce que la Chine l'emporte devant la Grande-Bretagne, les USA, les Pays-Bas et le Brésil. Donc c'est-à-dire qu'il y a des pays comme ça, comme les Pays-Bas ou le Brésil, où apparemment le handicap semble plus important. Hein.
Le Brésil, je pense pas.
Oui, mais ils sont là quand même, devant nous.
Les Pays-Bas, c'est sûr.
Oui.
La Grande-Bretagne, c'est sûr.
Et un pays qui est pourtant très fort sur le handicap, il est derrière nous, c'est le Canada.
Le Canada, ils ne sont pas nombreux.
Oui.
Le Canada, il faut trouver des concurrents.
C'est coupé, le Canada.
Il y a 25 millions de personnes.
Oui,
c'est grand, mais dans la toundra, on ne trouve pas des champions paralympiques.
Ouais.
Hein.
Voilà, c'est un peu ça.
Mais bon, 75 médailles, l'objectif, il est aussi atteint, là.
Oui, c'est très bien. C'est très bien, mais pour moi, l'objectif, il était ailleurs.
Oui.
Il était vraiment ailleurs. Il était vraiment dans la réussite globale des Jeux. S'il n'y avait pas eu les médailles, ça ne m'aurait pas dérangé. Oui. Honnêtement.
Bon. Les têtes d'affiche, Aurélie Aubert, par exemple, Porta, Hugo Didier, Boccia, tout ça, voilà. Ce sont des icônes maintenant.
Emeline Pierre.
Oui.
C'est des icônes, mais ça faut espérer que ça le reste. C'est toujours pareil. Je ne veux pas non plus faire le rabat-joie, mettre sur mon regard un petit peu sur ce qui se passe avant. L'icône, elle est sur le moment, surtout en parasport. Mais même en sport olympique, l'icône, elle est sur le moment, on l'oublie très vite.
Oui. C'est un peu le challenge, hein. Ça va être l'héritage, qu'on puisse perdurer, faire perdurer cet héritage. L'ambition du président de la République, Emmanuel Macron, c'est de faire de la France une nation sportive.
Oui.
Mais à l'heure où on entend qu'il y aura des coupures de budget et que le ministère des Sports, évidemment,
va bien trinquer,
on peut émettre quelques doutes. Mais par contre, un vrai engouement pour les sports à tout niveau et aussi quand même un éclairage sur les Paralympiques, sur le handicap. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire, ça on le sait. Les acteurs ont quand même pris des engagements. Mais il y a du travail. Maintenant, ça ne se fait pas en un coup de baguette magique. Il y a des investissements qui sont lourds. Et par exemple, à Paris, dans une ville patrimoniale telle que la ville de Paris, ce n'est pas forcément évident de tout changer. Pareil pour le métro. Seule la ligne 14 est totalement accessible. Tout ça, c'est des enjeux. Mais on verra par la suite s'il y a une suite et si c'est vraiment concrétisé. Je pense que c'est aussi quand même l'ambition et l'enjeu. On verra. On fera des bilans.
Ouais, c'est ce fameux héritage dont tout le monde parle. Alors justement, on parlait des budgets. On a changé de ministre aujourd'hui, Madame Oudéa Castéra, qui a quand même vécu une sacrée période. Hein. En tant que ministre des Sports, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont accompagné sa fonction en ayant vécu une telle période. A donc laissé la place au maire de Châteauroux.
Oui, bah, pourquoi pas.
Monsieur Gilles Lavrousse.
Oui, je ne connais pas ce monsieur.
Il a beaucoup œuvré, il paraît, pour que quand même Châteauroux ait les épreuves de tir.
Voilà. Oui. C'est ça.
Oui,
c'est
vrai. Hein, parce qu'on voulait pas les mettre. Mais enfin bon, son bilan, il est quand même assez exceptionnel.
Pour nous, son bilan est très bon. Bilan est très bon. Mais elle a accompagné des événements c'est un coup de chance quand même. Hein, c'est un coup de chance de tomber au moment où il y a
les deux Jeux Olympiques et Paralympiques sur Paris. Le mondial de rugby avant, il y a un an, c'est quand même assez.
Maintenant, est-ce que c'est grâce à elle?
Non, mais je veux dire, elle a quand même.
Bien accompagné les événements. Son ministère a été pris assez sérieusement.
Mm-hmm. On peut craindre, justement, dans ces fameuses coupes, que ça retombe, quoi.
Ça va retomber. C'est toujours comme ça. Et là, maintenant, si on va entrer dans une nouvelle période d'austérité, on a. L'ultra-droite, Cato qui arrive au gouvernement, ça ne donne pas tellement l'élan de fraternité, de solidarité. Je le vois mal dans la composition du nouveau gouvernement et des perspectives qu'on nous donne. Mais enfin, ce n'est pas le débat. Mm-hmm. Est-ce que ça aura des suites? On peut l'espérer quand même.
Il y aura quand même toujours des petites avancées, quoi qu'on en dise. Quand même, ça ne peut pas être complètement négatif, cet héritage. Après, qu'il soit aussi fort que ce qu'on espère, aussi, ça va être compliqué.
Mais il faudrait que les investissements se fassent tout de suite.
Oui.
Se fassent tout de suite, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il y a tout un tas de lourdeurs administratives, et puis il n'y a pas les sous. Il n'y a pas les sous, parce que les mômes qui ont regardé les Jeux Olympiques et qui veulent faire de la natation, il faut qu'il y ait un club tout de suite chez eux.
Oui. Alors, c'est très intéressant, parce que la semaine prochaine, on aura le maire adjoint chargé des sports du 13e, Eman Bassoumi, et on lui posera la question, lui dire s'il y a ce surplus de licenciés dans la plupart des associations sportives. Oui. Ça sera intéressant. Je pense qu'il va y avoir, à chaque Jeux Olympiques, c'est le phénomène quand même. Hein. Il y a beaucoup de... En fonction du résultat des médailles, on s'est identifié à tel ou tel champion ou telle championne. Donc, il y a toujours un afflux de nouveaux pratiquants. Et puis, ça se tasse un petit peu 2 ans après, à peu près.
Oui, je pense qu'il y aura un afflux de nouveaux pratiquants. Oui. Nouveaux pratiquants
ça, c'est classique, le tennis de table, le judo, l'escrime, natation, tout ça. On sait que on va regorger de demandes.
Sans doute. Après, il faut voir s'il y a les structures.
Oui. C'est le problème. Et c'est pareil pour le sport handicapé, quoi. C'est le même problème. Il y en a qui vont vouloir dire, après tout, ils l'ont fait, pourquoi pas moi hein. Mais le problème, c'est qu'il y a peut-être des structures qui ne vont pas pouvoir les accueillir.
Je rebondis, Philippe, sur ce que vous dites. Il y a 40 paraclubs à Paris. Il y a eu un doublement de ces... Voilà. Et puis, après, on verra. Je pense que ça va sans doute croître. On fera un bilan. J'irai faire un bilan... avec la ville de Paris pour savoir où on en est sur les puisqu'il y a eu la rentrée sportive avec
construire des choses.
Évidemment qu'il va falloir construire des choses et pouvoir les accueillir.
Donc ça met du temps, ça prend de l'argent,
Exactement.
Et entre-temps, il peut y avoir des gens qui se découragent, quoi. Voilà.
Ça prend du temps, mais il faut aller vite.
C'est ça. Surtout qu'après qu'il y a des échéances électorales, donc ça c'est un autre permanent.
Il y a aussi juste pour rebondir sur ça, une campagne du ministère des Sports un peu dans le métro par exemple que vous pouvez voir sur justement les inscriptions pour le sport. Vous voyez un bonnet de natation avec marqué Léon. Voilà, donc
oui, c'est
voilà,
normal.
Voilà, c'est voilà. Pour continuer ça, je pense que c'est la volonté et l'effort de tous les acteurs pour qu'on continue cet héritage. Ce ne sera pas juste un seul acteur. Et puis aussi, chacun d'entre nous. Mmh. Voilà.
Bien sûr. Alors, Pierre, ça va inspirer des livres. Il y en a un qui est sorti déjà. Là.
Oui, ah oui, ça c'est mon...
Alors, je sais qu'il y en a d'autres
en gestation,
mais on n'en parlera pas.
Mon dernier né, c'est un livre qui s'appelle « Les concours d'art et littérature aux Jeux Olympiques ».
Oui.
C'est un travail de 4 ans.
Quand même. Oui, 4 ans.
Oui, 4 ans.
Parce que 4 ans, combien de 7 heures, 8 heures par jour?
Non, 4 ans, oui, j'ai pas fait ça.
Oui, parce qu'il y a des travails de recherche aussi.
Il y a des travails de recherche, et puis j'ai sorti d'autres bouquins entre-temps.
Oui, c'est combien de, ça fait combien de livres, là?
Là, ça fait, je sais pas, 8 ou 10.
Oui, ouais, ouais, non, c'est beau quand même.
Plus, un ou deux par an.
Tu vois, quand t'écris à tes mémoires... Alors,
celui-là, il me tenait à cœur, parce que c'est quelque chose que tout le monde a oublié.
Oui.
Que tout le monde a oublié, mais de 1912 à 1948, il y a eu des concours d'art et littérature avec des médailles, avec des classements. Et c'est, j'ai essayé de faire le recensement de tout ça, de raconter comment ça s'est passé à l'époque, de faire une petite biographie de tous les médaillés. Il y a des choses très surprenantes, des choses très surprenantes, notamment la fin des concours d'art et littérature. Ils ont été supprimés en 1952. Mmh. Alors, pas pour une raison qui aurait été la raison objective, c'est que les artistes, ça ne les intéressait pas beaucoup. Ceux qui venaient, c'était ceux des artistes secondaires. Tu pouvais se laisser un petit peu de pub, comme on dit. Mmh. Mais effectivement, ce n'était pas d'une grande qualité. Mais la raison officielle, c'était que les artistes pouvaient vendre leurs œuvres. Où ils vivaient de leur travail, donc ils étaient des professionnels. Mmh. Donc, comme ils étaient considérés comme professionnels, il y a eu une commission qui s'appelle la commission Brundes, où ils étaient royalement trois. Et les trois, ils ont décidé d'abandonner les concours d'art et littérature. Donc, j'ai voulu faire un petit retour de ça, là-dessus, c'est méconnu. Donc,
c'est bien.
D'ailleurs, c'était la volonté de Pierre de Coubertin d'avoir le sport et l'art.
Oui, oui, au départ, oui. C'est ça. Même des
exactement, c'était sa volonté de départ.
Oui, c'est lui qui a créé.
C'est ça, ouais, exactement, c'est ce que je voulais dire. Ouais.
C'est lui qui a créé, il a même été médaillé.
Voilà,
il a même
c'est
été
ça.
Médaillé.
Ouais. Ouais. Donc, tu vas le présenter où, ton bouquin? Il va y avoir, je suppose, des séances de dédicace.
Je ne sais pas encore.
Un peu partout, dans Paris?
Un petit peu partout. J'attends qu'on me sollicite. Je ne suis pas un très bon vendeur, moi.
Ouais, ouais, mais c'est brave. Non, parce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de livres qui soient publiés là, après les Jeux, c'est classique. Hein.
Mais ça, c'était avant et ça n'a rien à voir
avec les Jeux. Oui. Je sais qu'il y en a un autre, on ne dira pas, qui est en gestation. Hein.
Qui est en gestation et qui est beaucoup plus, beaucoup plus personnel, qui s'appuie sur mon expérience olympique et paralympique.
Ouais, un petit genre carnet de route, par exemple.
Un genre carnet de route pour dire que j'étais content pendant un été. J'étais heureux pendant un été. Là, j'ai bien aimé la RATP pendant un été. J'ai pas bien aimé les flics, mais enfin bon, je leur pardonne pendant un été.
Tiens, je voulais qu'on revienne dans les bilans, parce que j'y tiens. Il y a un an, on avait suivi les paramondiaux d'athlétisme. Hein. J'avais trouvé Guy Antanon, mais vraiment... très optimiste. On a été qu'à 4 médailles de bronze. Il pensait pouvoir donc rétablir la situation. Et finalement, ça n'a pas été beaucoup mieux. Hein. 3 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Moi j'avais dit, il pensait que il avait dit oui, il y a beaucoup de 4e place, une génération qui monte. Mais enfin bon, en un an, on doit pouvoir quand même aller chercher des médailles d'or.
C'est pas évident. C'est pas évident.
Moi, ça m'étonne pas. Hein. J'avais trouvé trop optimiste.
On est à touche-touche, on peut être 3e, on peut être 8e. Il y a certains sportifs qui...
Alors qu'il y a eu 21 médailles pour le cyclisme sur route, 7 médailles pour le cyclisme sur piste chez les Paralympiques. Et puis effectivement, le judo, il y a 4 médailles, 14 médailles en natation. Et je l'avais trouvé, triathlon 4 et le tir 3, je l'avais trouvé assez optimiste quand même. Hein.
Oui, il est optimiste. L'athlétisme et le parathlétisme, on continue dans la même problématique. C'est difficile, c'est pas...
Alors, est-ce que la lisibilité aussi pour le grand public au niveau des sports paralympiques, c'est pas cette diversité, cette divergence? Parce que les finales de 100 mètres, je crois qu'il y en a 25 chez les paralympiques.
C'est assez compliqué.
Ouais.
Alors, quand j'ai suivi les paralympiques, j'ai voulu aussi me plonger dedans. Et j'ai fait 2 soirs au Stade de France, mais il y en a une d'ailleurs, il y avait plein de Hollandais, parce que c'était les Hollandais qui gagnaient le 100 mètres. Nous, on s'est levé combien de fois, 12 fois pour les cérémonies. On a fait « levez-vous si vous le pouvez », quand même, on nous dit.
C'est ça.
Mais 12 fois, oui. Mais t'arrêtez pas les cérémonies.
C'était fait exprès pour les Paralympiques de dire « si vous pouvez,
levez-vous ». Ah non, non, levez, pour les Olympiques aussi.
Ah bon,
ouais. Ah levez-vous bon si vous le pouvez.
Ah bon, je...
Et d'ailleurs,
j'étais
Philippe,
sur le terrain, donc je n'ai pas bien. Ouais.
D'ailleurs, Philippe, sachez que double record, puisque pour la session du parathlétisme du 7 septembre, 67 500 billets ont été vendus.
On a battu le record, c'est bien.
Voilà, après, c'était la paranatation aussi, 16 300, me semble-t-il.
Alors, tiens, donc, juste un petit mot, on parlait justement encore de l'argent, et puis des ministères qui vont dire 80 000, 40 000 et 20 000 euros. C'est tout à fait logique.
C'est tout à fait logique. Hein,
aussi bien olympique ou paralympique, pour la médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze.
C'est la discrétion des États.
Alors maintenant, il faut se battre pour que ce ne soit pas imposable. Ça, c'est autre chose.
Ouais, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais bon, c'est plutôt bien. Ouais. Alors, c'est ceux qui donnent le plus.
Parce qu'il y a eu ce vieux débat il y a 3 ans. On voulait leur imposer leur prime. Bon, ils s'étaient battus. Et puis finalement, ils avaient réussi à avoir ça non imposable. Là, j'espère que voilà.
Bon, on va espérer. Mais le pays qui donne le plus à ses médaillés, c'est Singapour.
Ah oui ?
$1 million pour une médaille d'or.
Ouf !
Mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et celui qui donne le moins, c'est la Grande-Bretagne. Zéro.
C'est étonnant quand on sait que c'est le berceau de beaucoup de sports.
C'est le berceau de beaucoup de sports, mais c'est le berceau du sport amateur.
C'est ça.
C'est zéro. En Grande-Bretagne, il n'y a aucune prime.
Le pays le plus libéral à un moment.
Pas très traditionnaliste.
Allez, on écoute au Journal des Sports. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'événements. Alexandre, ce week-end.
Absolument, oui. Philippe. Donc, on commence ce Journal des Sports avec le rugby et les résultats du top 14. Un mauvais week-end pour nos clubs franciliens, puisque le Racing 92 s'est incliné sur le terrain de Bordeaux-Bègles 52-34.
Alors, je te coupe, il joue à Créteil actuellement. Comme la piscine, elle n'est pas encore complètement démontée, il joue au stade du Vauchel à Créteil.
C'est pareil pour le Stade français qui perd son match à domicile contre le RC Toulon 14-10. Au classement, le Stade toulousain est leader avec 13 points, suivi par Bordeaux-Bègles, Clermont et Castres avec 10 points. Le Racing est 9e, le Stade français 11e, tous deux avec 5 points. Et Perpignan ferme la marche avec seulement 1 point. Handball, c'est pareil, un week-end compliqué pour nos clubs franciliens puisque Créteil et Évry ont tous les deux perdu respectivement contre Nîmes et Saint-Raphaël. Seul le PSG fait honneur à la région parisienne en remportant son match 39-31 contre Dunkerque. Comme on en parlait la semaine dernière.
Ça va être dur, Ivry.
Ivry, ça va être très, très dur.
C'est le voisin pourtant.
C'est le voisin, mais ça va être dur malheureusement. Au classement, les Parisiens sont 3e à égalité de points avec Montpellier et Toulouse. Créteil est 8e et Ivry, justement, reste la lanterne rouge du championnat. Chez les femmes, le Paris 92 est 8e du championnat après sa défaite 28-25 contre Besançon ce vendredi. Première journée, première défaite pour nos deux clubs franciliens du Paris Basket et de Nanterre 92. Et oui, on reprend la Elite Pro League, mais malheureusement, par des défaites parce que les Nanterrois se sont inclinés sur le parquet de Limoges 90-87.
Grande ville de basket, Limoges.
Grande ville de basket, oui, mais ça s'est joué à pas beaucoup. Et les Parisiens ont perdu à Dunkerque 89-85. En Formule 1, McLaren continue sa très belle saison puisque Lando Norris a remporté le Grand Prix de Singapour hier. On parlait justement de Singapour. Max Verstappen et Oscar Piastri complètent le podium. Au classement des constructeurs, McLaren donc est leader avec 576 points, suivi par Red Bull 475 points et Ferrari 441 points.
Il reste 6 Grands Prix, il va gagner Verstappen quand même.
Verstappen sans doute en pilote, mais en constructeur ça va être compliqué pour Red Bull. C'est quand même un coup de tonnerre finalement. Ouais. On continue dans les sports mécaniques avec le Grand Prix moto Émilie-Romagne qui se déroulait hier. Sans surprise, c'est Enea Bastianini qui a gagné. Georges Martin et Marc Marquez ont terminé la course sur le podium. Seul Français du top 10, bien évidemment, c'est Fabio Quartararo qui finit à 20 secondes de Bastianini. Au classement des écuries, c'est toujours Ducati qui est loin devant KTM. 261 points séparent les deux équipes. On continue ce Journal des Sports avec le Mondial du cyclisme sur route et Remco Evenepoel qui est titré pour la deuxième année d'affilée sur le contre-la-montre.
Alors, il gagne, il fait le doublé olympique, il gagne le contre-la-montre olympique et puis il est pour ses routes. Là, il gagne le contre-la-montre du championnat du monde. Ça risque d'être un exploit s'il est champion du monde dimanche.
S'il est champion du monde dimanche, ça sera du jamais vu.
Ah, ouais.
Mais enfin, il y a Pogacar.
Oui, c'est à Zurich. Pogacar
aussi. Ouais. Très grosse saison. Il devient intraitable dans ce domaine, hein, Evenepoel. Qui dit cyclisme, dit paracyclisme, bien sûr. Et on a eu droit à un triplé français sur le contre-la-montre. Ouais. Trois semaines après le doublé aux Paralympiques, Mathis Lebeau, Kevin Le Quinf et Gatti Le Rousseau ont terminé aux trois premières places du contre-la-montre. Oui.
Ça, c'est bien. On fait les Paralympiques et les Olympiques et les Valides ensemble, la même semaine. Ça,
c'est pour le vélo.
C'est bien. C'est bien.
Il y avait également du paratriathlon justement ce week-end. Championnat d'Europe. Et après le titre olympique, les Français Alexis Anquincan et Jules Ripstein réitèrent. Septième titre européen pour Anquincan et deuxième titre européen pour Ripstein. Donc franchement, c'est plutôt pas mal comme héritage justement.
Oui, c'est bien.
Dans la continuité, c'est super bien. Et on termine ce journal des sports, Philippe, avec le résultat du combat de boxe qui opposait Daniel Dubois et Anthony Joshua.
C'est fini pour Joshua, c'est fini là.
C'est terminé.
La carrière, elle est finie. Non,
je pense pas que la guerre soit terminée, mais en tout cas, victoire par KO de Daniel Dubois, qui laisse son compatriote britannique sur le tapis. Ouais. Ambiance de folie à Wembley.
Oui, alors justement, Vanessa, elle parlait des records d'audience, des records de spectateurs qu'il y avait eu donc à l'Arena. À Wembley, on a battu un record 98 000 spectateurs. Plus qu'un match de foot. Alors, c'est le temple du foot, Wembley.
C'est incroyable. Et donc, 5 rounds. Et Joshua qui termine KO.
Très bien.
Il y a plus de place pour un match pour un combat de boxe.
Oui, mais c'est 98 000, il faut les remplir. Hein. Oui. Bon, je sais qu'il y a eu de la boxe jadis sur Roland Garros. Il y a aussi pour les jeux.
Plus de place dans les grands.
Oui, non, c'est sûr. Allez, on va la dose. On aime bien donc Gilbert Montagnier, mais cette fois-ci c'est donc Super Tramp avec Dreamer pour la deuxième pause musicale, et ensuite on va passer au foot avec notamment Stéphane. Allez, on va, je pense, retrouver notre ami Stéphane. On va retrouver les bonnes habitudes, les bonnes traditions. Stéphane, bonsoir. Est-ce que Stéphane m'entend? Non, il n'est pas prêt. Bon, alors on va peut-être revenir en attendant. Donc Stéphane Desenclos et on aura Joe Dassin, on vous l'a promis, donc pour la fin de l'émission. Vanessa, donc je voulais simplement que tu me parles un petit peu de tes coups de cœur, notamment du volet assis.
Ah oui, du volet assis. Et d'ailleurs, vous retrouverez bientôt une interview. J'ai été non seulement voir une épreuve de volet assis. Alors, la France n'était plus là parce qu'on était sur les finales. Mais en revanche, j'ai aussi testé le volet assis. Et c'est super intéressant, super ludique. J'ai interviewé un coach de volet assis. C'est vraiment une discipline à découvrir. Et je vous en dirai plus très prochainement. Mais on retrouve vraiment le volleyball, puisque moi, j'aime beaucoup le volleyball. Et on retrouve vraiment les gestes du volleyball. Et c'est ça. Évidemment, vous êtes assis, donc vous devez vous déplacer avec vos mains et vos pieds comme ça. Mmh. Et je vous en dirai plus très prochainement. Mais en tous les cas, c'est extrêmement intéressant. Et le volley assis, j'étais vraiment... la compétition, j'étais épatée par la performance technique que ça demande. Parce que ça m'a permis de voir les deux, hein, de mettre un peu en parallèle les deux, comment moi je me situe quand j'essaye, et puis de voir le niveau mondial, qu'est-ce que ça donne. Et c'est une discipline qui n'est pas encore très, très développée, mais on espère vraiment qu'elle va se développer. Et je vous en dirai très bientôt, très, très prochainement, Philippe.
Je pense que cette fois-ci, on a notre ami Stéphane au téléphone. Stéphane, bonsoir. Bonsoir Stéphane, je ne t'entends pas. Je t'entends pas. Bon, alors on va essayer de régler ça du côté donc de Stéphane Desenclos et de notre ami Jason. Certains disent qu'il faudrait faire les Jeux Olympiques et Paralympiques en même temps.
Surtout pas, parce que les Paralympiques seraient complètement mêlés dans la masse et les Paralympiques, ils veulent surtout pas être en même temps que les Olympiques.
Oui.
On avait discuté avec Marie-Amélie Le Fur, c'est vraiment un niette complet. Hein. Ils ont leurs épreuves, ils ont le sur le devant de la scène pendant 15 jours, ils ne veulent pas nous noyer dans la masse. Hein.
Oui, oui. Non. Justement, c'était une mais de non, tes questions, Alexandre.
En fait, c'était peut-être pas en même temps, en simultané, mais
voilà,
un
délai jours.
Un moins
c'est
moins
pas
long.
Très long, bah, et le 15 fait jours. Il y a des installations aussi spécifiques à mettre.
Surtout le fait que ce soit en septembre et que du coup les gens reprennent le travail, leur vie quotidienne normale, forcément il y a un peu moins de lumière, un peu moins d'intérêt puisque les gens reprennent leur routine et c'est ça je trouve qui est dommage, alors que si on le fait fin août vraiment se termine fin août, je pense que ça pourrait
c'était difficile
dans le calendrier, mais
est-ce
que les gens seraient plus intéressés parce qu'ils ont repris leur travail ou pas? Je pense pas que ça joue.
Après, si je peux me permettre, quand même, il y a eu des très bons records de fréquentation sur les Paralympiques, donc finalement je comprends tout à fait ta réflexion, Alexandre, mais ça n'a pas empêché les gens de venir tout de même.
Sûr.
Et surtout avec les prix très attractifs, puisque les prix étaient vraiment à partir de 15 euros, donc ça, c'était bien. Mmh. Et il y a eu beaucoup d'enfants et des scolaires aussi qui sont venus, donc ça a permis de...
Bon, en attendant le point, notre ami Stéphane au téléphone, on va faire le point foot avec Alexandre et on fera signe quand Stéphane est prêt. Donc, ça a commencé avec 5e journée quand même. On a marqué 36 buts dans cette 5e journée. On parlait que l'autre jour, il y avait 37 buts. Dans la 3e journée, donc c'est un championnat où on marque beaucoup, et ça a commencé justement avec le carton qu'a pris Saint-Etienne à Nice 8-0.
Absolument incroyable ce match entre Nice et Saint-Etienne, puisque 6-0 mi-temps, et donc du coup les supporters stéphanois sont tout simplement partis dès la mi-temps, et au final le coach niçois a fait tourner, puis pour terminer avec un bon 8-0, mais le match marquant, c'est quand même l'Olympico de hier.
Match assez fou hier. Hein. 3-2 pour...
je vois
pour
Vanessa qui a ramené la une de l'équipe à Toulouse.
Match d'anthologie hier.
3-2 pour, 3-2 pour Marseille, donc à Lyon.
Dans les dernières minutes, pourtant Ryan Cherki qui avait égalisé à la 80-90e et puis Rowe qui au final crucifie à domicile l'Olympique Lyonnais. Marseille qui continue sur sa très bonne lancée et pourquoi pas se permettre de jouer le titre. Parce qu'en plus Monaco qui rend...
Ok. Allez, on fait un troisième et dernier essai. Stéphane, bonsoir. Oui, bah je t'entends, mais bon, c'est bon, vas-y, je t'entends. Vas-y, donc. Alors, cette journée de championnat, justement, un peu folle quand même, hein, puisque donc on a marqué 36 buts. Ah d'accord, ok, donc on va interrompre Stéphane, tu vas le rappeler, on va interrompre et malheureusement on continue donc... On continue donc les résultats. Lille et Strasbourg, match nul 3 partout. Rennes et Lens, match nul 1 partout. Match nul aussi pour Reims et le Paris Saint-Germain 1 partout. Victoire de Monaco devant le Havre 3-1. Angers-Nantes 1 partout. Brest qui bat Toulouse 2-0. Et victoire de Montpellier devant Auxerre 3-2.
Absolument. Au final, le Paris Saint-Germain qui lâche des points, qui permet à Marseille de recoller en tant que leader dans le haut du classement. Pareil pour Monaco avec 13 points. Et donc, comme on il y a des bruits qui se laissent entendre. On peut espérer trois équipes qui jouent le titre. Pourquoi pas cette saison finie.
Alors justement, ça tombe bien parce que Paris Saint-Germain, Marseille et Monaco sont en tête avec 13 points. Devant Nantes, donc, qui est quatrième, hein, un petit peu décroché. Lens, pardon, un petit peu décroché. Donc quatrième avec 9 points. Cinquième, Nantes et Reims, 8 points. Alors qu'en bas de tableau, on voit que déjà ceux qui sont montés se battent pour le maintien. Auxerre et Saint-Etienne, 16e avec 3 points. Et le 18e, c'est Angers, 2 points. Voilà.
Absolument. Et puis début de saison.
C'est bien pour le championnat qu'il y ait quand même comme ça trois équipes qui se.
Ah oui, c'est toujours bien. C'est ce qu'on demande finalement. Trois équipes. Un championnat plus homogène, quoi. Parce que si c'est tout le temps le Paris Saint-Germain qui est au bout de 5 journées à 20 points d'avance, c'est toujours compliqué.
Oui. Pierre, c'est bien ce début de championnat. Bon, on a eu un petit peu mal à replonger dans le foot.
Oui, j'ai eu un petit peu de mal. Oui, le début de championnat.
C'est... 37 buts, troisième journée, 36 buts hier. Bien. C'est bien. Okay. Et c'est bien que comme ça, on ait deux, trois équipes qui se battent. Marseille qui va bien maintenant cette année.
Ouais.
Paris, bon, qui pour l'instant.
Paris, il leur manque Kylian Mbappé.
Oui.
Ça ne se remplace pas comme ça.
Je pense que dans la saison, ils vont le voir.
Ils vont le voir et je pense que Paris a un peu décliné en qualité. Par contre, Marseille s'est bien renforcé.
Voilà.
Monaco, c'est toujours bon. On peut avoir un vrai championnat. Voilà.
Ouais. Je voudrais présenter mes excuses. On n'aura pas Stéphane ce soir. Il y a eu des petits problèmes techniques. Donc, nos excuses, mais on le retrouvera sans aucun problème la semaine prochaine. En Ligue 2, cinquième journée, donc on parlait justement d'un championnat assez serré. Ça allait aussi en Ligue 2, puisque Bastia a battu le Paris FC 2-0. Victoire de Laval à Saint-Ouen devant Gastar 3-0. Sinon, les autres résultats marquants, c'est Guingamp-Annecy 2 partout. Rodez qui est allé gagner à 3-0 et nul entre Metz et Lorient 1 partout. Bastia est en tête avec 11 points. Devant là aussi 3 équipes, Guingamp, Grenoble et Lorient 10 points. Metz est 5e avec le Paris FC, Amiens et Dunkerque 9 points. Le Restart est presque en milieu de tableau, hein, 12e avec 6 points et 18e dernier 3-1 point. 3 qui est descendu pourtant et qui se bat déjà pour le maintien.
Le Red Star qui a 2 victoires cette saison pour l'instant, qui s'accroche, qui joue plutôt pas mal, hein, parce que je regarde quand même pas mal les matchs du Red Star, qui est très cohérente, qui est cohérent dans ce qu'avait voulu amener Habib Bey. Voilà. Le Paris FC en revanche avait très bien commencé la saison avec 3 victoires, mais les deux derniers matchs ils ont perdu des points, notamment celui-ci contre Bastia qui était un match très très compliqué. De toute façon, c'est toujours difficile de se déplacer là-bas en Corse. Mais du coup, le Paris FC, on a peur si on se projette encore une saison déception pour le Paris FC.
Pierre, Paris FC, faudrait qu'il réussisse à monter enfin.
Oui, il faudrait, ça serait pas mal. Moi, je suis plutôt Red Star.
Ah, c'est bien.
Bah, oui, j'ai joué Red Star.
Du peuple.
Ah ouais, bah non.
J'ai joué Red Star dans la fin des années 70.
Bah oui.
On reste amoureux du Red Star.
Voilà. Allez, un petit mot du National. 6e journée, ça va pas très bien pour le Paris. Atletico, déjà encore est battu donc, à domicile par Boulogne sur mer 1-0. Défaite aussi pour Versailles à Nîmes 1-0. Donc pour l'instant, c'est Boulogne qui est en tête avec 13 points. Devant Nancy, Valenciennes, Concarneau 11 points. Versailles est en milieu de tableau, 11e avec Rouen et Châteauroux 6 points. Et le Paris Atlético se bat déjà pour sa survie, pour le maintien. Ils sont 16e à égalité avec Villefranche en Beaujolais avec 3 points.
Absolument, le Paris très Atlético qui fait un très mauvais début de saison, aucune victoire pour eux, 3 buts marqués seulement. Donc franchement, ça va être compliqué pour le Paris très Atlético cette saison en National.
Déjà, ça commence,
Pareil pour Versailles qui, malgré tout ça, l'année dernière, avait fait un très bon début de saison. Là, ça commence un peu à se gâter pour Versailles.
Voilà, et puis les féminines, c'était la reprise du championnat. Ils ont pratiquement tous reparti. Hein, les Sportco m'attend. Je crois qu'il y aura le volet la semaine prochaine, simplement. Donc Lyon qui est allé s'imposer à Fleury-Mérogis 6-2. Victoire du Paris Saint-Germain à Montpellier 3-1. Et victoire du Paris FC à Guingamp 6-0. Donc naturellement, les équipes qui ont gagné sont en tête, à savoir Paris FC, Lyon, Paris Saint-Germain, Saint-Etienne et Nantes avec 3 points.
Oui, petite déception aussi pour Fleury, qui tombait forcément contre les Lyonnaises, donc c'était forcément compliqué. Mais 6-2 à domicile, donc début de saison, pour l'instant réussi pour le Paris FC et le Paris Saint-Germain, donc c'est ça qu'on va retenir de positif.
Allez, on parle des Coupes d'Europe quand même, ça a été l'événement de la semaine. avec cette refonte des Coupes d'Europe. Pierre, elle te plaît, la refonte des Coupes d'Europe ?
Alors, elle ne me plaisait pas du tout. Mais finalement,
ah bon,
finalement, c'est pas si mal.
Ah bon ?
Finalement, c'est pas si mal.
Moi,
on comprend rien.
Je trouve que c'est pas bien.
Enfin, ah non, mais on comprend rien. On ne comprend plus rien, mais ça fait des jolis matchs.
Oui,
bah ça fait des jolis matchs. Il y a plus de... On peut perdre un match, on est éliminé. On peut en gagner un, ça ne sert pas à grand-chose.
Oui, enfin, il faut finir dans les 8 premiers. La poule.
Non, hein, les 24 les premiers.
Ouais.
Les 24
après,
premiers.
Il y a des barrages.
Après,
y a
c'est
des
24
barrages.
Premiers. Ouais. On en sort 12. Mais ça fait un petit peu comme le championnat de basket américain.
Oui, mais ça fait des matchs supplémentaires. On sait que
pas beaucoup, mais ça fait des bons matchs. Ça fait des matchs intéressants. J'étais totalement contre, moi.
Oui.
Mais les Coupes d'Europe de ces dernières années, c'était toujours les mêmes équipes qui gagnaient. C'est... Ça va pas changer.
Bah, dans
mais...
le passé aussi, hein. Les Ajax d'Amsterdam, le Bayern de Munich, les clubs anglais, c'était pareil. Hein.
Oui, c'était pareil, mais c'était pas le même foot là. Disons que dans l'ancienne formule des Coupes d'Europe, ça pouvait être terminé au bout de 3 matchs. Hein. C'était alors que là, ça va continuer de jouer. Il y a plus de pognon en plus, et puis il y a des matchs agréables. J'ai vu des matchs agréables.
Bah, ça s'est bien passé quand même pour les clubs français dans son ensemble, parce que, excepté Lille qui a été battue par le Sporting du Portugal 2-0, on a eu le Paris Saint-Germain, certes, dans la douleur, dans la difficulté, qui s'est quand même imposé devant Gérone 1-0. Brest, ça c'est un événement à Guingamp, qui a gagné devant Grasse, donc le Storm Grasse 2-1. Et puis Monaco qui bat, je suis désolé, hein, donc, qui bat Barcelone 2-1.
Oui, Monaco,
un petit commentaire sur ces 4 matchs.
Un petit commentaire.
Mais ça se passe plutôt bien, 3 victoires et une défaite.
Ça se passe plutôt bien et c'est ça, donc je rejoins ce que disait Pierre, c'est qu'avec cette nouvelle formule, on a peut-être plus de chances de voir en tout cas au moins une qualification pour l'Europa League derrière. Parce qu'on sait qu'il y a des... pour les 16e de finale, pardon, excusez-moi.
Ouais.
Pour les 16e de finale, les barrages.
L'Europa League, c'est cette semaine.
Oui, non, pardonnez-moi. Ouais. Mais Monaco... Monaco-Barça, c'était un match un peu compliqué pour l'FC Barcelone parce qu'ils se prennent un rouge très tôt dans le match et ça a su très bien profiter au Monégasque. Et mention spéciale aux deux ailiers, Ben Seguir et Akliouche, qui ont quand même fait un super match. Le Paris Saint-Germain, pareil, match...
Ça a été compliqué
quand
même.
Ça a été compliqué, mais dans l'ensemble,
la deuxième mi-temps
mérité.
Est bien meilleure. Oui, c'est moi qu'on puisse le dire. Hein. Bon, c'est un but casquette, hein, mais enfin bon.
C'est un but casquette, mais Gazzaniga a gagné beaucoup de temps, donc c'est pas non plus mérité pour le Paris Saint-Germain.
Et Brest, quelle semaine. Ils ont gagné en championnat ce week-end et ils gagnent leur premier match de Coupe d'Europe de leur histoire. Ouais. Et en plus, en Ligue des Champions.
Début de saison surprenant de la part de Brest. On espère juste que, parce qu'on sait toujours que quand des petites équipes se qualifient pour la Ligue des Champions, pour les Coupes d'Europe,
après,
c'est toujours compliqué de tenir dans le temps. Mais voilà, Brest qui remporte son match. Et puis, grâce à cette victoire, quand on regarde bien le programme de Brest, parce que maintenant, il faut dire le programme de Brest en Coupe d'Europe, on peut espérer quand même des petits points à grappiller par-ci par-là et pourquoi pas une qualification au moins pour les barrages.
Et puis, par contre, grosse déception pour Lille.
Grosse déception pour Lille.
Lille, c'était jouable quand même, le Sporting du Portugal.
Justement, les clubs français contre les clubs portugais, on connaît la chanson sur le papier, on pense qu'on est les plus forts, mais au final, sur le terrain, c'est
différent. C'est sûr qu'ils ont plus de Coupe d'Europe que nous.
Oui,
ils en ont gagné plus. Hein. Ouais.
Mais c'est pour ça que Lille, c'est une déception qui n'en est pas une finalement, parce que en plus avec le...
Ah bon, pour toi, c'est pas...
Non, parce que j'attendais pas grand-chose de la part des Lillois au Sporting, et surtout avec l'attaquant Gyökeres, il me semble, qui marche sur l'eau actuellement, qui marque but sur but, donc honnêtement, Lille, ça m'a pas surpris plus que ça.
Bon, sinon, parmi les autres grandes affiches, il y a eu un 0-0 entre Manchester City et l'Inter de Milan. La victoire du Real, qui a assuré l'essentiel devant Stuttgart 3-1.
Histoire compliquée, très compliquée.
Ouais. Bon, ils ont assuré l'essentiel, hein, voilà. Comme à leur habitude. Et puis Liverpool qui va gagner donc au Milan, c'est 3-1.
Liverpool qui gagne à Milan, mais Milan fait un début de saison quand même somme toute mauvais, on va pas se mentir. Et Liverpool, voilà, sans surprise, avec ses individualités qui sont supérieures, remporte ce match sans trop de débat.
Voilà, donc on va rappeler que cette semaine, c'est la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence, hein, pour les autres clubs français. Et puis, chez les femmes, le Paris FC a été battu, c'est les matchs de barrage. Hein, le Paris FC a été battu assez nettement à domicile par Manchester City 5-1. Et puis, victoire aussi de la Juventus de Turin devant le Paris Saint-Germain 3. Voilà.
C'est assez rare de la part du Paris Saint-Germain de lâcher des points aussi tôt dans la saison. Mais... Le football féminin, généralement, c'est souvent les grosses cylindrées qui, au fur et à mesure de la saison, creuse l'écart, donc que ce soit Chelsea, le FC Barcelone, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. C'est vraiment les cinq, et Wolfsburg aussi, les six grosses équipes d'Europe. Donc on va sans doute se retrouver avec ce genre de match en quart de finale et en demi-finale.
Très bien. Merci en tout cas pour ce point foot. Et puis encore toutes nos excuses avec Stéphane, mais on le retrouvera la semaine prochaine. Pierre, donc le foot, justement, l'équipe de France qui est arrivée en demi-finale. Didier Deschamps, on l'a rencontré à la flamme. Il fallait le garder ?
À mon avis, il ne fallait pas. Pas, mais on ne pouvait pas l'enlever. D'une demi-finale.
Ouais.
À mon avis, il aurait fallu qu'il arrête après la Coupe du Monde 2022.
D'accord.
Il arrivait sur une finale, sur un match dans le vide, certes perdu, mais dans des conditions... Il fallait qu'il parte. Là. Il y a un moment où ça fait 12 ans qu'il y est, ça fait 12 ans qu'il y est, et il a ses principes, et il a son jeu un petit peu restrictif. Maintenant, est-ce qu'il y a une autre manière de faire, je ne sais pas, c'est pour l'entraîneur, mais je pense qu'il faudrait... Il aurait peut-être fallu qu'il s'arrête. Et là, je crois qu'il commence à y avoir de pas mal de tensions en interne.
Oui, commence à y avoir des petites tensions en interne. On sait que les deux matchs de rentrée ont été très moyens. Enfin, il y en a un plutôt bon contre la Belgique, un nettement moins bon face à l'Italie.
Alors, je suis face à l'Italie, je ne l'ai pas vu, j'étais au Stade de France pour voir les
Paralympiques. Moi, j'ai le temps de le voir quand même. Je travaille,
J'étais au Jeux Paralympiques.
Ça fait partie du job, ouais.
C'était aux Jeux Paralympiques et puis la Belgique, c'était pas mal. Mais bon, c'est des matchs où tout le monde s'en fout, en fait.
Sur Platini, quoi, parce que c'est lui qui a créé la Ligue des Nations. Alors, justement...
La Ligue des Nations.
L'idée vient de lui.
L'idée, il y a longtemps. Voilà.
Quand je dis ça vient de lui, l'idée vient de lui quand il était président de l'UEFA. Donc, des livres, on a dit, il y en a en gestation. Combien de livres ont été écrits au total? Alors, tout sport confondu?
Par moi?
Oui.
Ça doit être 12 ou 13. J'ai compté plus.
Ouais. Le foot, le vélo.
Foot, rugby, vélo, Jeux Olympiques, histoire, olympisme. Ma spécialité, c'est de lier l'histoire avec le sport. Mmh. Et un autre qui va apparaître, c'est un cycle de conférences que j'ai donné qui s'appelle Les Jeux Olympiques et l'histoire.
Ah.
J'ai été me balader un petit peu. À droite, à gauche, pour donner des conférences. Les gens ont bien aimé. Du coup, je vais en faire un petit bouquin qui va être publié par l'Institut CGT d'Histoire sociale du livre.
D'accord.
Donc, j'ai donné des conférences dans ce cadre-là. Mais à chaque fois qu'il y a une conférence, donc, il y aura un petit bouquin de 60 pages.
Quel est le sport qui inspire le plus les écrivains et les historiens? Alors, le vélo, la boxe, je sais que c'est des sports avec des histoires humaines.
Alors, curieusement, c'est la boxe.
Oui.
C'est la boxe, la boxe. Moi, j'aime pas du tout la boxe, mais c'est un sport qui se prête à la narration, parce qu'il y a une histoire, histoire d'homme, une histoire de le cyclisme. Il y avait beaucoup de choses dans les années 50-60. C'était le cyclisme, ça faisait partie de la vie, ça faisait partie de l'histoire.
Ouais.
Ça faisait partie de l'histoire, Coppi Bartali, Anquille Poulidor.
La France coupée en deux.
L'Italie, l'Italie, c'était pire. Hein. Entre les communistes et après, il y a beaucoup de choses qui s'écrivent sur le foot, mais c'est beaucoup plus du descriptif.
Le rugby aussi?
Le rugby aussi, mais c'est aussi du descriptif. C'est difficile de faire de l'analyse sur le rugby.
Ah, c'est compliqué.
Sur le foot, on peut faire de l'analyse, ça peut être une critique de la financiarisation du foot, mais une fois qu'on a dit ça, on peut y avoir cette biographie de grands champions, mais moi je ne fais pas de biographie. Après, moi c'est surtout, c'est surtout tout ce qui tourne autour des Jeux Olympiques qui est quand même assez propice à l'écriture.
Il y a tellement d'histoires, il y a tellement de diversité de sports, et puis c'est un peu lié à la géopolitique,
c'est totalement lié à la géopolitique.
Tu voulais intervenir sur la trêve olympique.
La trêve olympique, c'est assez intéressant parce que tout le monde parle de...
Il y avait un colloque, on y est allé, il venait ça au mois de mai.
De trêve olympique, la trêve olympique, ça existe, et ça existait, enfin ça existe sur le papier, et ça existait en vrai. Durant l'Antiquité. Alors, c'était pas une période de paix. C'était pas, on dit on fait la paix, puis on verra après. C'était une période où les combats cessaient pour que tous les greffes puissent aller à l'Olympique sans se faire massacrer. Donc, il n'y avait plus de combat pour que les athlètes puissent aller à l'Olympique. Et la trêve durant le temps des Jeux, elle durait le temps que les athlètes aient le temps de rentrer chez eux. Donc, elle était à temps variable, puisqu'au moment des grandes conquêtes d'Alexandre, pour aller de la Sicile à l'Olympique, c'était assez long. Et la trêve, c'était juste simplement pour garantir la sécurité des concurrents. Et il était interdit de pénétrer à l'Olympie en armes. Et j'avais fait des recherches et la trêve olympique de l'Antiquité n'a été violée que deux fois. Ce qui n'est quand même pas beaucoup en 1720. Hein. Donc, et maintenant, la trêve olympique, bon, on en parle, mais voilà. Les combats ne sont pas arrêtés en Ukraine.
Juste 30 petites secondes pour finir. Maintenant, Alpes 2030, hein, il y aura des Jeux d'hiver.
Ouais. Bon. Pourquoi pas?
Bah oui, c'est bien.
C'est bien.
Je pense qu'ils vont prendre un petit peu conseil avec Paris 2024. Hein.
Il faut regarder.
T'as pas écrit sur les Jeux d'hiver?
Si.
Si,
si j'ai écrit.
Lillehammer, c'était le plus gros, 94?
Ah, c'était le plus gros.
Ouais.
Et d'ailleurs, Philippe, comme vous savez, hein, Michel Barnier, ça a été un grand acteur des Jeux.
Il a été avec Jean-Claude Killy, ouais, 92.
De 92, et c'était la transformation des Alpes françaises. Ouais. Et on lui doit quand même beaucoup de choses, et parce que tout a été mis en place. Et puis pour les Alpes 2030, on met beaucoup d'espoir là-dessus.
Mm-hmm. D'accord.
Avant 2026, bien sûr, avec Milan Cortina.
Oui, on aura l'occasion d'en reparler en tout cas.
Vous en faites avec moi, merci en tout cas.
Oui. Merci Pierre,
ça a été un plaisir. C'est un plaisir de venir à chaque fois.
Ouais. Hein, puis tu reviens pour la rétro comme
prévu. Avec plaisir.
Allez, merci à Jadon. Un petit coucou donc à LAG qui va prendre le relais pour au bout du foot avec toute son équipe. Et puis aussi un petit coucou à Malik hein, qui était à sa place donc l'année dernière et qui a pris un petit peu de recul. Merci à Jadon. On finit avec Joe Dassin.
Le jardin d'Émilie.
Voilà. Allez, belle soirée à toutes et à tous et rendez-vous la semaine prochaine.
Bonne soirée.
Salut.
Bonne soirée.
Dans son quartier du vieux Québec, les rues ont l'air d'avoir l'accent. Et l'an 2000 voisine avec les maisons grises du vieux temps. Mais l'hiver vient d'éclater, le Saint-Laurent est prisonnier d'un décembre qui va bien durer 6 mois. Quand les jours ressemblent aux nuits, sans éclaircie à espérer, qui peut croire que l'été nous revient? Son quartier du vieux Québec, quand les toits deviennent verts, quand les enfants ont les pieds secs, on tourne le dos à l'hiver. C'est la fête du printemps, le grand retour du Saint-Laurent. On dirait que les gens sortent de la terre. Mais Émilie n'est plus à moi, j'ai froid pour la première fois. Je n'ai plus ni sa chaleur, ni sa lumière.
fait